jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée écrit et interprète. Elle est autrice et éditrice, compositrice et chanteuse. Son nouveau livre se lit autant qu'il s'écoute. Et on y croise autant Buffy que Philippe Solers, Valérie Solanas que des masculinistes, Sexy Sushi que le sitcom des années 90 Maggie, la poétesse Renée Vivian que des monstres sacrés du cinéma. Et je mets des guillemets à monstres et à sacrés. Mais on y rencontre surtout Violette, jeune fille de 17 ans qui découvre chez elle un étrange pouvoir que d'autres qu'elle se découvrent aussi. Faire imploser des verges en mille morceaux, les calciner jusqu'à les transformer en geysers de viande hachée. Violette, mais aussi Sidonie, Eulalie, Dahlia et Marcia sont les Fallers, des super-héroïnes bien décidées à user de leur pouvoir pour ne plus avoir à poser cette question : comment faire pour que les hommes cessent de violer ?
Chloé Delhomme, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Alors j'allais spontanément, Chloé Delhomme, présenter votre livre Fallers comme une dystopie. Mais est-ce que vous le voyez vraiment comme une dystopie, ce livre ?
C'est pas vraiment, c'est légèrement décalé. C'est plus un roman d'apprentissage dans un... C'est pas vraiment une dystopie, c'est un livre de super-héroïne.
Est-ce que vous diriez que c'est une utopie même ?
C'est presque une utopie,
ah oui.
En fait.
Vous rêvez d'un monde...
où les hommes cesseraient de violer, effectivement.
Ça, c'est une utopie.
Ça, c'est une utopie. Et, puisqu'il y a que dans les sociétés qui sont matrilinéaires qu'il n'y a pas de viol, en fait. Et c'est une sorte de petit fantasme, effectivement. Donc, j'ai une petite obsession pour la notion de castration punitive depuis mon tout premier livre, il y a 25 ans, parce que dans les mouflettes d'Atropos, il y avait une machine, le bito-extracteur, qui était à partir d'un micro-ondes trafiqué. Et c'est toujours d'actualité, apparemment.
Donc, l'utopie, c'est que les hommes cessent de violer. Si vous dites que c'est une utopie, ça veut dire que vous pensez que c'est irréalisable ?
Je sais pas si c'est réalisable. J'aimerais bien, et j'ai trouvé que cette solution imaginative, je sais pas, enfin,
les Fallers,
c'est-à-dire que on se retrouve complètement comme une poule devant un couteau avec cette problématique. On sait pas comment faire toutes les 7 minutes en France. Donc, je sais pas.
Toutes les 7 minutes, il y a un viol en France.
Il y a un viol en France toutes les 7 minutes. Et c'est pas le même monsieur. Donc, il y a bien un énorme problème. Et du coup, j'ai inventé ce côté punition fatale, un peu en catharsis, quoi.
Et la dimension, justement, est-ce qu'il y a une dimension utopique dans cette solution que vous avez inventée ? Est-ce qu'il y a une utopie aussi de la violence, de la castration ?
Alors, la violence est arrivée en réponse ultime, en fait. C'est-à-dire qu'on se demande si, à part la crainte, la peur que ça leur arrive, ça va pas continuer. Enfin, on ne sait pas par quel bout prendre ce problème, en fait.
Oui.
Donc, du coup, j'ai choisi la solution humoristique aussi.
C'est vrai que c'est très drôle.
Parce qu'il n'y a que l'humour qui peut nous sauver en ce moment. Mais je ne suis pas sûre, après, dans les faits, que l'humour soit vraiment efficace dans la vraie vie.
Et justement,
c'est ça le problème.
Sur l'effet que ça peut aussi avoir de lire Fallers, ça fait rire, ça fait réfléchir. On est aussi en colère, on est aussi comme Violette, votre héroïne, c'est-à-dire on est dans l'apprentissage. Violette, elle a des résistances, on va y revenir.
Elle est très rétive.
Voilà, elle est très rétive à ce don-là. Est-ce que vous pensez qu'un livre comme ça, justement, il ne fait pas que rire ? Vous doutez d'ailleurs du pouvoir de l'humour total, en tout cas, complet de l'humour. Est-ce que vous pensez que ce livre-là, il peut faire changer des choses ?
Changer les choses sur les hommes, je ne sais pas. C'est ça le problème, c'est-à-dire que faire du bien aux femmes, oui, ça
je confirme.
Dans les retours que j'ai, ça fait 15 jours que le livre est sorti, mais je reçois des petits messages et j'ai vu les papiers et je croise des lectrices en signature. Après, encore une fois, le souci, c'est qu'on ne sait pas ce qui peut empêcher les hommes de violer, à part le risque de voir leur phallus exploser. Donc, j'ai trouvé que ça.
Maggie, voilà Maggie. qu'est-ce que c'est que ce voyou là qui te sert de neveu et ce bouquet, d'où il vient ce bouquet, hein?
Attends, je vais t'expliquer, tu vas voir, ça va te faire rire.
On me fait rire, ça m'étonnerait.
Tu sais, les fleurs, eh ben, c'est mon neveu. Et mon neveu, c'est les roses d'hier. Enfin, je veux dire, c'est lui qui m'a envoyé dans les roses. Alors, il m'en a apporté aujourd'hui pour se faire pardonner. Écoute, c'est gentil, hein.
Quoi, cet avorton, là, c'est le violeur d'hier? Mais je vais te lui casser la gueule, moi.
Je t'en prie. Je t'en prie, Georges. Écoute, c'est un gamin. Il est amoureux de moi, il me fait la cour. Écoute, c'est plutôt mignon. Et puis, tu sais, finalement, eh ben, c'était pas une agression.
Ah bon?
C'était une séduction. Oh, tu vas pas être jaloux, mon petit Georges. Hein? Tu vas pas être jaloux.
Moi, jaloux?
Oui,
oh. Tu penses? Moi, jaloux. Espèce de malade!
Monsieur l'inspecteur, arrêtez-moi, je vous en supplie.
Bonjour, Patrick. Qu'est-ce que vous faites là?
Attendez, Rose. Vous connaissez?
Mais dans le quartier, tout le monde connaît Patrick.
Maggie,
oui.
Il a le sirocco dans la tête. Oui.
Oh, mais moi aussi j'ai eu droit à une gerbe de fleurs. Seulement la mienne, elle était le double de celle-là.
Peut-être les auditeurs et auditrices de France Culture ont reconnu le sitcom Maggie. On a entendu le fameux générique en début d'extrait. C'est une série télé de Jean-Guy Gingembre et Stéphane Barbier. Et l'épisode dont on vient d'entendre un extrait, c'est l'épisode 45, Fou et usage de fou. C'était diffusé sur Antenne 2, je le rappelle. Moi, je le regardais un peu petite, sans savoir vraiment à quoi ça correspondait. On vient d'entendre cet extrait donc d'épisode que vous citez, Chloé Delhomme, dans votre livre Fallers, lors d'un cours que suit Violette, votre protagoniste, un cours sur culture du viol et pop culture. Comment vous avez réussi à vous souvenir de l'existence de cet épisode de Maggie sur le viol?
C'est pas moi, c'est un ami documentaliste, c'est Malik, qui m'a trouvé ça. Je cherchais quelque chose qui soit sur la culture du viol, avec le plus d'exposition possible. Or, Maggie, c'était 7 millions de téléspectateurs. Donc, imaginez un peu 7 millions de téléspectateurs, le nombre de femmes qui
ont vu...
Un dimanche soir, le nombre de femmes concernées par la question du viol qui ont vu cet épisode délirant où le viol est un sujet comme un autre, puisque Maggie, dans ses aventures, a un dégât des eaux ou des choses comme ça. Et là, le viol est vraiment pris au même niveau.
C'est un ressort narratif un autre.
Oui, comme un autre. Et c'est cet ami qui m'a retrouvé cet épisode qui est sur YouTube. C'est comme ça que j'ai pu le consulter.
C'est comme ça qu'on l'a eu aussi, voilà. Il me semble.
Oui, non, c'est délirant, surtout de se dire qu'il y a les scénaristes, mais après il y a les producteurs, il y a la chaîne, et qu'en 87, si je ne m'abuse, je crois que c'est 87, il n'y en a pas un qui a tilté en disant « c'est pas possible ». Il y a même une réplique où la bonne, quoi, donne à Maggie un cognac en lui disant prenez un petit cognac, il n'y a rien de tel quand on a été violé. Enfin, pour se remettre avec les rires enregistrés.
C'est le personnage de Rose interprété par Marthe Villalonga. Ce qui ajoute aussi d'ailleurs, et c'est très bien précisé dans le livre, dans le cours que donne Marcia, c'est que le violeur en question, qui est donc qualifié de poète, est interprété par Jackie du Club Dorothée.
Oui, on a vraiment plein délire.
Sur TF1, il est dans le Club Dorothée et sur Antenne 2, il joue un violeur.
Ils se sont pas dit un seul instant au casting non plus. Un monsieur qui travaille pour une émission pour enfants, c'est peut-être problématique de le faire incarner un violeur. Non, mais tout est... Il n'y a rien qui va, quoi.
Donc, dans ce livre, Fallers, on voit que Violette, qui se découvre, votre héroïne, ce pouvoir de faire imploser les phallus, débarque dans cette communauté de Fallers. Et dans cette communauté, est-ce que vous pourriez nous la présenter, Chloé Delhomme, pour qu'on comprenne où elle débarque et si elle comprend bien ce qui lui arrive?
Alors, en fait, le pouvoir des Fallers se déclenche, on ne sait pas pourquoi, mais pendant une agression. La première, parfois, la dernière, parfois, quand c'est des abus répétés. Et Violette déboule dans une maison très grande avec un sous-sol qui sert de salle d'entraînement où il y a des collages au mur sur le mode donc des colleuses, avec puisque toutes les 7 minutes vient le temps d'un membre qu'on ampute ou ce genre de l'homme ou l'artiste, moi j'ai tranché avec une hache dessinée au milieu, enfin ce genre de choses. Et elles ont une couverture. Elles travaillent comme société de spectacle officiellement pour pouvoir s'infiltrer partout. Et elles s'entraînent en kidnappant des prédateurs qui sont impunis, où là, elles leur serrent juste le membre pour s'entraîner et pour que l'homme ne recommence pas. Et puis après, elles vont donner le grand assaut final où là, tout va exploser. Elles vont attirer dans un piège les masculinistes et les prédateurs célèbres et régler leur compte à tout ce petit monde.
Voilà, il y a d'un côté les Fallers et de l'autre les masculinistes et au milieu, il y a Violette. Qui est Violette pour vous, Chloé Delhomme ?
Violette, c'est une jeune fille de 17 ans qui a été abusée longuement depuis longtemps par son beau-père, mais qui culpabilise beaucoup. Elle a peur que sa mère, qui est liée à cet homme, se sente très mal. Elle a une mère maltraitante, mais elle y est attachée. Et elle va.
Elle est dépressive, sa mère. Vous la décrivez comme dépressive.
Sa mère, c'est une dépressive assez violente en parallèle. Et Violette est issue d'une famille dysfonctionnelle, divorcée, mais extrêmement dysfonctionnelle. Elle a plus confiance en rien. Elle a été quittée par son petit ami pour sa meilleure copine. Donc, elle croit pas non plus à la notion de sororité. Elle est en fuite, puisqu'elle a agi sur le beau-père qui doit être dans un état assez problématique. À l'hôpital ou à la morgue, elle ne sait pas. Et elle est en fuite quand elle tombe sur les Fallers qui la repèrent et lui mettent le grappin dessus pour l'emmener dans leur communauté. Et elle est très rétive à la violence. Du fait d'avoir été frappée petite, du fait de...
D'être mue par la colère. Elle
oui.
ne supporte pas l'idée,
non.
le sentiment ou la passion de la colère.
Bah, le don se met en place par le biais de la colère. C'est la colère qui permet au pouvoir de se mettre en place, d'agir. Et Violette n'est pas pour la loi du talion, elle est rétive à la violence. Elle est rétive à la violence.
Mais Violette, elle peut incarner aussi les lecteurs, les lectrices qu'on peut être potentiellement. J'ai listé le nombre, par exemple, de Violette, de peur que Violette ressent. Il y a la peur de la colère, mais il y a aussi la peur du sectarisme. Elle ne supporte pas d'être enfermée dans cette villa avec des femmes et des filles qui répètent en boucle, qui suivent des cours sur la culture du viol, de regarder Maggie. Elle refuse aussi d'être considérée comme une victime.
Oui, c'est ça le problème principal, c'est qu'elle et c'est assez représentatif en fait des victimes justement, c'est qu'elle elle ne veut pas être assimilée à ça, donc du coup pour elle la communauté des Fallers va dans ce sens de victime qui se venge et elle voudrait oublier qu'elle est victime, donc du coup elle a du mal à adhérer à la communauté et puis finalement
grâce aussi à ce cours où on voit l'épisode de Maggie, elle comprend. C'est là où l'apprentissage se fait.
Elle comprend et ensuite elle va être les masculinistes, les virilitas vont envoyer un jeune homme de leur cru pour infiltrer les Fallers en espérant les faire exploser et Violette va tomber sur ce jeune homme qui va la draguer grassement et elle va se rendre compte que elle s'est fait avoir et là le pouvoir va pouvoir se mettre en place définitivement.
Mais on a un petit peu peur justement à ce moment-là qu'elle ne tienne pas. Est-ce que vous comprenez, Chloé Delhomme, les résistances qu'on peut avoir face à ce mouvement féministe-là, mais aussi face à ce qui est présenté comme de la sororité avec ce qui peut s'apparenter à une forme de sectarisme tel que le décrit Violette, avec des passions qui sont celles de la colère et aussi avec l'idée d'être enfermée dans un statut, celui de victime.
Oui, je comprends qu'il y ait des résistances là-dessus. C'est pour ça que j'ai essayé de les mettre dans le livre, justement, et d'avoir une héroïne qui les dépasse. C'est-à-dire que la notion de sororité, comme c'est de la non-mixité, et que c'était un peu avec mes bien chères sœurs et le collectif sororité que j'avais fait chez Point Féminisme, c'est un petit peu mon cheval de bataille.
Votre
la
dada.
Sororité, oui. Et j'ai entendu beaucoup de personnes qui étaient réticentes pour ces questions de non-mixité et aussi d'adhésion a priori. Mais
que vous pouvez répondre à ça?
Ben, je pense que c'est d'abord l'objectif et la delphité au final, c'est-à-dire le frère et sœur et pas que le sœur. Au final, j'entends bien. La non-mixité, c'est un petit peu moins fort qu'à une époque aussi. On a eu besoin d'avoir, dans le cheminement des féminismes, on a besoin de se retrouver entre femmes à un moment donné, comme les intersectionnelles ont besoin de se retrouver aussi entre personnes de la même communauté. Enfin, ça me paraît.
Mais pour vous, c'est une étape.
C'est une étape qui est archi nécessaire. Moi, je suis pas pour un monde qui serait matriarcal et peuplé que de femmes au pouvoir et pas qu'au pouvoir d'ailleurs. Enfin, j'ai fait Les Sorcières de la République en 2016 pour parler de ça, pour expliquer que le matriarcat était pas du tout la solution. On va pas inverser un pouvoir dégueulasse pour faire la même chose. C'est pas les mêmes armes, c'est pas une bonne idée. Mais après, la sororité est un outil qui est très fort et très utile pour faire bouger les choses, et je crois que quand on regarde un petit peu, même si les prédateurs tombent toujours pas, mais ça c'est des questions de justice, les femmes sont beaucoup plus organisées ces dernières années, et ça donne des résultats quand même.
Et c'est depuis qu'il y a eu MeToo, selon vous, que ça a changé?
Oui, il y a vraiment un avant et un après 2017, je crois que c'est évident, oui.
Quelle définition vous pourriez donner, Chloé Delhomme, de la sororité?
C'est un lien.
Le fait d'être sœur.
C'est être sœur, mais être sœur au-delà d'un lien qui serait décalqué sur du familial. C'est un lien indéfectible. Mm. C'est un lien qui permet d'être plus forte. C'est un lien qui soude. Et je crois que vraiment, pour faire tomber le patriarcat, on peut pas en faire l'économie. Mais c'est très, ça a bien marché. La sororité a fait le boulot, et vraiment là, on voit bien qu'il y a plein de collectifs. Les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de liens qui se créent, de collectifs aussi. Enfin, moi, j'ai la sensation que c'est plus la même chose qu'il y a 5-6 ans.
Qu'est-ce qui a changé? Que c'est plus solide? Vous avez parlé des modes d'organisation.
C'est plus solide.
Mais c'est
solide.
Quoi? C'est plus aussi structuré ou articulé dans ce que ça dessine comme projet politique ou comme nouveau type de rapport à l'autre?
Je crois qu'il y a les deux, et qu'en même temps, on s'est mis à avoir conscience de l'aspect systémique du patriarcat. Et à partir de ce moment-là, la sororité permet aussi une alliance collective en face, quoi. On n'est plus toute seule. Et ça, c'est quelque chose de très important. Que ce soit dans l'espace public, en cas d'agression quelconque, que ce soit en réunion au bureau. Enfin, moi, j'ai quand même plein de témoignages, et puis je le vois, je vais pas dans des bureaux, mais je vois bien qu'il y a ce lien qui s'est déployé maintenant. Et pas que chez les jeunes filles, quoi. Même les adultes qui ont été formés à un rapport très très patriarcal, et quand elles s'en sortent, c'est parce qu'elles ont des comportements d'hommes. J'ai l'impression que ça rétropédale un peu maintenant. Il y a quand même ce lien qui balaye un peu, ouais, qui aide en tout cas.
Est-ce qu'on est en train d'assister, selon vous, Chloé Delhomme, à même à une nouvelle... Bon, peut-être que je comprends mal l'idée de projet politique, mais même plus en fait de nouveaux types de liens, c'est-à-dire de vraiment une nouvelle, plus que de la politique où on parle d'un gouvernement ou d'un type de rapport d'organisation politique, je parle vraiment d'un type de sentiment ou de lien à l'autre.
Bah, au même titre que l'amitié est en train de, il y a pas mal d'articles qui sont sortis ces derniers mois là-dessus, l'amitié prend le lien sur l'amour. Prend le pas, pardon, pas le lien.
C'était pas mal en même temps. Ouais.
Et je crois que la sororité est en train de devenir un mode, un mode relationnel, en soi, qui va au-delà de la bande de filles ou du girl power à la...
Ou des clichés justement parce que le girl power implique de la rivalité aussi.
Oui. Oui, non, là, je crois que la notion de rivalité entre femmes, on commence à bien comprendre que ça fait le jeu du patriarcat et que c'est pas avec ça qu'on va s'en sortir.
Est-ce que vous, on a parlé des phallers et des virilitas, justement, face à ce lien-là, il y a quand même une forme de manichéisme. Comment vous faites face aux critiques, aux objections sur le manichéisme, parce que dans cette fable, je dirais, décalée, dystopique, utopique, il y a vraiment deux groupes opposés.
Oui, il y a deux groupes opposés, comme il y a les rapports extrêmes hommes-femmes qui se posent, mais c'est une fable, effectivement, donc je ne pouvais pas faire l'économie de quelque chose de très, très c'est blanc, c'est noir.
Presque un peu moral.
Oui, il y a un côté fable, donc oui, c'est une fable complètement barrée, mais c'est une fable quand même, donc... Et puis, il n'y avait pas la place pour des sentiments complexes. Là, on est vraiment... Et en même temps, on parle de culture du viol. Est-ce que la culture du viol est si complexe que ça? Je ne suis pas sûre.
En tout cas, elle est insoupçonnée. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est à la fois visible et insoupçonnable. Quand vous disiez que Maggie était diffusée à une heure de grande écoute comme un ressort narratif comme un autre, le viol étant présenté comme un ressort narratif comme un autre, c'est que c'était paradoxalement sous notre nez sans qu'on le voie.
Exactement, et c'est là qu'on voit à quel point c'est ancré, ça l'était, et c'est très récent qu'on commence à se rendre compte de ça. C'est comme pour les paroles de chansons ou un tas de trucs. C'est dans, on baignait là-dedans, on baignait complètement là-dedans. Et maintenant, on s'en rend compte, et ça passerait plus, j'espère. Mais ouais, vous pensez que ça passe encore, vous?
Ouais, non.
Ouais, je sais pas, j'écoute pas de rap, alors du coup, je me rends pas compte.
Non, même dans la variété française, c'est très difficile de toute façon de distinguer des changements de mœurs.
Ouais.
Il y a pas un avant et un après radical.
À part sur MeToo, quand même. Mmh. Mmh.
Mais justement, il y a c'est ce qui est dit quand même dans votre fable, Chloé Delhomme, c'est que les mots ont changé, mais les faits restent. Même avec MeToo.
Avec MeToo, sur les faits, ça reste. C'est effectivement les femmes qui sont plus lucides. Et les alliés aussi. Parce qu'il y a quand même des alliés. Il ne faut pas avoir l'impression que le not all men est est parfois juste, malgré tout.
Vous avez parlé de la chanson Chloé Delhomme. Il y a un album qui accompagne Fallers. Je vous propose qu'on en écoute un extrait, mais aussi d'autres de vos chansons, Chloé Delhomme.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Ce soir tu te noies, tu ne t'y attendais pas.
Pouvoir psychique, ne qu'un hachoir. Elle change électrique en bande d'arrosoir.
Des fins lueuses, des aventures, d'une héroïne contemporaine.
Des fabuleuses, mes aventures, d'une héroïne contemporaine.
Un mix de chansons que vous interprétez, Chloé Delhomme, avec les titres Faller Song, éponyme et La Noyade.
Pourquoi faire de la musique pour accompagner vos textes, Chloé Delhomme?
En fait, j'ai fait des BO de livres depuis très 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 longtemps. J'avais des extensions, etc.
Et pourquoi justement ce besoin d'extension?
Parce que j'aime bien le côté art total, moi. J'aime bien que ce soit vraiment plongé dans tout un univers. Et puis parce que j'aime bien faire des chansons. Donc c'était l'occasion à chaque fois, enfin pas à chaque fois mais souvent, et puis aussi parce que je fais des lectures musicales à partir des bouquins, donc c'est l'occasion de travailler avec des musiciennes et des musiciens, d'écrire des paroles, de m'amuser un peu.
Mais justement, quand vous parliez tout à l'heure de fables, de chansons, que c'était en train de changer, est-ce que ça participe aussi de cette volonté-là? C'est-à-dire, dans Fallers, vous dessinez un monde complet avec des chansons, avec des tableaux, avec des sitcoms. Est-ce que là, c'est une manière aussi de reprendre la place et de proposer des fables et des chansons concurrentes?
Ah, ça, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est une réponse, du coup. C'est vrai que Ouin Ouin Boogie est une réponse à toutes ces chansons masculines qui nous envahissent souvent.
Je crois que c'était pour leur prendre la place, moi.
J'ai pas pensé à ce point, mais finalement, pourquoi pas, oui. Oui, il y a de ça.
Quand vous parliez d'art total, il y a effectivement le texte en tant que tel, il y a la chanson. L'idée, c'est de retracer un univers, de nous plonger dans autre chose. Complètement. C'est quoi l'art total dont vous parlez?
Ça serait... Il manque le visuel sur Fallers, mais on réfléchit à la version BD, on cherche la dessinatrice.
Là. Et pourquoi pas d'ailleurs un film ou...
Initialement, c'était un court-métrage. L'idée
ça apparaît
de Fallers,
dans Pauvre Folle, ouais, votre roman paru en septembre.
Effectivement, ça devait être un court-métrage et on n'a pas trouvé les financements avec le producteur. Donc le producteur a laissé tomber alors qu'on avait la chaîne parce que c'était dans une collection. Et le livre a été fait parce que je voulais pas lâcher l'idée. Et c'est la directrice de collection de Point Féminisme qui m'a dit « Mais fais-moi un livre » quand je lui racontais mes aventures cinématographiques. Et il va y avoir normalement un clip sur une des chansons où du coup on va voir les Falleurs en action avec des explosions.
Surtout qu'il y a quelque chose un petit peu de la série B presque.
Ah mais complètement, même de la Z. On
voilà,
peut
c'est
dire,
ça.
Oh, oui, c'est du grand guignol, du grand guignol.
On a envie du gore, voilà, de la chair à saucisse qui gicle.
Tout à fait, c'est du steak haché qui explose avec des geysers d'hémoglobine.
Ah là, on peut se faire plaisir.
Oui, il y a moyen de faire un truc assez rigolo, je pense.
Mais le problème de l'image, c'est que, à la différence de la musique et du texte, de la littérature, c'est qu'on a moins ce côté peut-être du rythme auquel vous êtes très attaché. C'est-à-dire quelque chose de, quand on le lit, ça doit s'écouter, mais ça doit aussi s'écouter dans son corps, quoi. On doit ressentir quelque chose, de ouais. la peur, de la colère. Parfois, l'image, raccourcit le champ de l'imagination d'une certaine manière, enfin nous empêche.
L'image surtout aurait, enfin surtout si ça avait été un court métrage, donc 12 minutes, ce qui était très très peu, c'est qu'il n'y aurait pas eu de méta, il n'y aurait pas eu de discours sur la culture du viol. Ça empêchait plein de choses sur l'état intérieur de Violette, par exemple. Dans le court métrage, on l'aurait vu juste roman, enfin côté apprentissage, prendre le pouvoir peu à peu et finir en super-héroïne. Mais toutes les raisons pour lesquelles elle est rétive, tout le discours sur les interrogations sur l'usage de la violence, sur la loi du talion, ces trucs culturels, effectivement, que ce soit Maggie ou d'autres, il n'y aurait pas eu la place dans un film, en fait. Ou alors, il aurait fallu que ce soit un long métrage. Mais qui sait, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va trouver que c'est une bonne idée de faire des super-héroïnes qui font exploser des gags en direct, on ne sait pas.
En fait, ce qui ne vous plaît pas trop, c'est juste des discours qui sont comme ça balancés. Chloé Delhomme, vous parliez de l'intériorité de Violette. C'est aussi ce qu'on traverse à travers tous vos textes. L'autofiction, c'est vous, ou un personnage de... une extension encore de vous, un double de vous. Les héroïnes qu'on croise aussi chez vous, on a toujours accès à quelque chose de leur intériorité. On peut pas juste les voir comme ça agir dans un décor.
Non, c'est vrai qu'il y a toujours... l'état psychique intérieur est très très travaillé, ouais. Enfin en tout cas montré. Ouais.
Et comment ça se fait? Comment on l'écrit ça? Parce que c'est très difficile de pas faire de la psychologie un peu nulle quand on écrit... comme ça, le mieux parfois pour décrire un personnage, c'est de le voir en mouvement, en action, faire des choses. Là, comment on fait pour saisir, sans être un peu réducteur ou gnangnan, l'état intérieur?
L'état intérieur est lié aussi à ce qui est la backstory du personnage, enfin d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a subi, qu'est-ce qu'il a construit. Et tout ça, je pense que l'avoir en action sans flashback aurait été très réducteur. Oui, c'est important de savoir ce qu'elle a subi avant, et c'est important aussi de comprendre que les Falleurs se sont dans une némésis, mais une némésis qui est plus que justifiée en fait. C'est-à-dire que c'est, il arrive à un moment où, enfin, moi, je suis une grande fan de Valérie Solanas, hein, donc sur la question de la.
Donc, qui a écrit Scum Manifesto, ouais. qui est connu pour avoir tiré sur Andy Warhol.
Ouais. Et la question de la violence est pas problématique pour moi. Voilà. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné où face à la violence subie, la victime a parfois pas d'autre choix que d'être en réaction. Et il fallait, c'est une blague, mais c'est effectivement une blague cathartique parce qu'à un moment donné, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de colère de mon côté. Ouais.
Et l'écrire,
ça libère parce que c'était dans une écriture blaguesque, puisqu'effectivement, on est dans du grand guignol, on est dans du gore et on est.
Vous pourriez pas l'écrire premier degré, quoi.
Non, 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 mais non, non, premier degré.
C'est là où ce serait un peu cucu ou un peu trop facile.
Ça serait un peu bêta, je pense, du coup, ouais. Non, l'humour est là pour magnifier cette affaire, on va dire.
Chaque jour a révélé quelque chose de mon existence. Ce que j'ai écrit, c'est pas ma vie, c'est mon existence. Et ce que j'ai essayé de décrire dans mes livres, c'est mon existence. C'est-à-dire que ce n'est pas une biographie, je ne suis pas un personnage médiatique, je ne représente rien d'autre que moi-même. Et, mais les sentiments que l'on peut éprouver dans une existence, ça peut se partager avec les autres. Et à ce moment-là, le degré de célébrité n'a aucune importance, c'est la qualité de l'existence qui compte. Et alors, que chaque jour soit le dernier, non, mais que chaque jour en soi forme une totalité et qu'elle passe, oui. Mais avec l'espoir que le lendemain, il y aura autre chose qui continuera à donner un sens à mon existence.
La voix de Serge Dubrovski dans cette archive du 14 février 2011, c'était dans l'émission À plus d'un titre, l'écrivain et critique littéraire.
Serge Dubrovski est une figure qui vous a beaucoup inspiré, Chloé Delhomme.
Ah bah c'est lui qui a inventé le terme d'autofiction, oui. En 70.
On lui doit à la fois beaucoup et on lui en veut aussi beaucoup parce qu'on ne parle que d'autofiction en ce moment, non ?
Oh ça fait 20 ans qu'on parle. Enfin non, il y a eu un petit creux de la vague à mon
moment. Ouais, mais là, il y a presque plus de romans, on parle
alors,
de récits.
Attention, voilà. Attention, faut pas mélanger le témoignage, la biographie et l'autofiction, c'est pas pareil.
Alors dites-moi.
Nashino, c'est une forme de témoignage, par exemple. D'ailleurs, elle revendique le fait que ça soit pas de l'autofiction. Angot, c'est à cheval.
Ça dépend des livres.
Ça dépend des livres. Et après, moi, je fais de l'autofiction.
Alors, c'est vous ou c'est pas vous ? C'est ça, à chaque fois, la question du pacte,
c'est moins en pire. Voilà.
Ou en blague.
Ou en mieux.
Ou en blague.
Exactement.
Mais Fallor, c'est pas une autofiction.
Non, ça sert à rien à voir, justement.
Voilà. Oui.
Vous en avez marre de l'autofiction ou assez, vous avez fait le tour ?
J'ai cru que j'avais fait le tour quand j'ai fait Les Sorcières de la République en 2016. Et puis finalement, j'ai changé d'avis derrière. Donc maintenant, je me prononce plus.
Vous osez plus dire maintenant ?
Non, je crois que je vais... J'utilise de temps en temps des personnages. Je sais que pour le prochain roman, ce sera avec un personnage. J'ai fait mon premier chapitre la semaine dernière.
Ça va sortir quand ?
Je pense que ce sera pour 2025, du coup. Parce qu'il faut que je le rende en février.
Ah oui, donc pour rentrer 2025, finalement.
Ouais. Voilà, j'ai donné à Bernard Comment, mon éditeur, mes 10 premières pages et il était content, donc me voilà fort satisfaite.
Donc vous êtes plutôt sur le roman, mais vous ne renoncez pas à l'autofiction. Est-ce que c'est important pour vous de définir une forme selon les histoires, selon
oui.
que vous voulez que ça produise, soit des pamphlets, soit de l'autofiction?
J'ai fait plein d'objets différents et moi ce qui m'intéresse c'est de travailler la forme. En fonction de chaque objet, de chaque propos, de chaque histoire. J'ai même fait un livre dont vous êtes le héros sur Buffy, la tueuse de vampires. Donc l'idée à chaque fois, c'est d'avoir un genre ou une forme différente, même si on me reconnaît. Il y a toute une partie de mon travail qui était sur le roman familial sous forme d'autofiction. Là, il y en a eu pas mal. Enfin, je pense au moins 5-6 qui sont dans la même lignée, qui sont vraiment de l'autofiction brute, quoi. Et après, ça dépend vraiment des objets.
Et il y a le plaisir de la forme, la manière dont ça s'adapte aux propos, mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose de performatif ? Vous savez que la parole sera plus prenante ou plus active, ou plus, elle aura plus d'effet sur le lecteur ou la lectrice selon telle ou telle forme. Par exemple, pour Fallor, c'était clair.
Oui.
C'était une fable grand guignol.
Oui. Ça dépend vraiment des propos et des objets, mais j'essaye. Mais en même temps, Fallor, c'est mon 30e livre. C'est ma 30e publication. Donc, c'est normal aussi, avec autant d'objets, que j'ai besoin de faire des formes différentes. La seule chose que je ferai jamais, c'est le polar.
Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Quelle forme vous ne voudriez jamais
non,
faire
le polar, je ferai pas. Il y a très longtemps, on m'avait contacté pour une collection, mais parce que j'en lis pas. Et que c'est un univers qui m'intéresse pas du tout, les trucs policiers. Donc je peux donner quelque chose qui tiendra pas la route. Vu que...
Et les romans historiques ?
C'est pareil, les romans historiques. J'étais allée, quand j'ai été pensionnaire à la Villa Médicis, j'étais censée travailler sur Messaline. Je me suis vite rendu compte que ça allait ressembler à un roman historique. Finalement, j'ai fait des performances et puis quelques temps plus tard, Les Sorcières de la République, qui est une dystopie zinzin. Donc, non, roman historique non plus.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous écrivez, Chloé Delhomme ? C'est pas le moment le plus jouissif.
Le moment le plus jouissif, c'est vraiment quand je suis en transe dans Word. Je crois que ce que je préfère au monde, c'est être dans Word. Et c'est vraiment ce moment où des phrases avancent toutes seules et où il n'y a plus rien qui existe.
Donc quoi, vous en êtes à ce moment-là à 40 pages? Vous êtes lancé quand même?
Oh, ça peut même être sur... c'est pas une question d'où j'en suis, c'est une question vraiment de connexion avec le traitement de texte.
Et là, les phrases sortent comme ça?
Bah ouais, ça peut sortir tout seul. Après, ça, en général, je fais mon premier jet, je retravaille le paragraphe au fur et à mesure. Moi, j'ai pas, il y a des, enfin, je connais plein d'autrices hein, qui font le bout à bout et puis après qui reviennent dessus. Moi, j'ai besoin de verrouiller quasi paragraphe à paragraphe pour avancer. Ce qui fait que quand je me suis mise au scénario, c'était très compliqué parce que c'est tout le contraire. Un scénario est un objet ultra mouvant. Qui a quasiment jamais de version définitive.
Oui, qui se retravaille tout le temps jusque
ouais,
sur le plateau.
Au début, j'ai eu beaucoup de mal. Ça me rendait un petit peu ma boule que ce soit pas fixé. Mais pour mes travaux romanesques, c'est enfin ou même d'essai, c'est vraiment au fur et à mesure que je verrouille. Ouais.
Donc là, Chloé Delhomme, je parle pas de ce moment-là dans le studio, mais en ce moment de votre vie, comme vous en êtes à la fin de votre premier chapitre qui a satisfait votre éditeur et vous-même, vous êtes à ce moment-là la plus heureuse du monde.
Ah oui, oui.
En ce moment, vous êtes très heureuse.
Oui, oui. Non, tout à fait. Et puis c'est une période qui est assez assez rigolote pour moi entre le disque et le livre. Je m'amuse bien là.
Merci beaucoup. Merci. Chloé Delhomme de Vaux. On peut donc lire Falleurs, c'est paru aux éditions Point dans la collection Point Féminisme avec l'album Sentiment Négatif qui peut se QR scanner. Je signale aussi que samedi 27 avril aura lieu Falleurs Club. C'est un événement collectif à la Ménagerie de Vers. C'est à partir de 16h30 jusqu'à 23h.
Chloé Delhomme, nous terminons cette émission en musique. Nous avons choisi deux chansons. Une chanson de la série Buffy contre les vampires ou une chanson d'Indochine. Buffy ou Indochine, qui choisissez-vous?
Ça dépend.
Je peux pas vous dire.
Bon, mettez-moi Buffy.
Life's a show and we all play our part. And when the music starts, we open up our hearts. It's all right if some things come out wrong. We'll sing a happy.
Et voilà pour vous, Chloé Delhomme, Buffy, Something to Sing About. On a bien fait d'insister pour la voir, cette chanson. Vous vous souvenez même de l'épisode spécial, comédie musicale. Un grand merci donc à vous, Chloé Delhomme. Un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparées par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez, Théa Corler et Manon Delasselle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Alex Dang. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain.
À demain, Géraldine.